Alors, nous allons passer à un moment très important et crucial où nous serons guidés par le président de la jeunesse. Bienvenue, président.
Shalom. On est trop calme aujourd'hui. Voilà, on va passer par un moment intéressant. C'est un jeu de concours biblique. Donc, je vais inviter 5 volontaires. Si vous êtes intéressé par ces jeux, pour gagner un cadeau à la fin, venez ici. 5, vite fait, 5 volontaires. Wow! Ok, 5. Voilà. Alors, je vais demander à Papa Jérémy de nous apporter les Bibles qui sont là au-dessus. À quoi va consister le jeu? Chers volontaires, c'est pas compliqué. Je veux juste dicter un verset de la Bible et vous les cherchez. Le premier à trouver, il signale, et puis il va lire à haute voix. Si vous gagnez, vous avez droit à une Bible. C'est ça le cadeau que vous avez. C'est un Nouveau Testament. Alors, c'est lui qui a trouvé en premier, il lève la main, comme ça, il nous lit à haute voix. Je vais commencer par Proverbe 16, 12. 5 secondes, hein? Proverbe 16, 12. 16, 12.
Lisons donc du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Les rois ont horreur de faire le mal.
Amen. Ouais, c'est une bonne réponse. Alors, elle a gagné. Voilà. Le suivant, c'est Ésaïe 49, 2. In time is up. Qui était le premier à lever la main? C'était lui. Ok. Tu peux nous lire? Non, non, c'était lui d'abord.
Ésaïe 49, 2. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois.
C'est la bonne réponse. Bravo. Il reste deux. Tenez-vous prêts. Trouvez Luc 1, 37. 1, 2, 3, 4, 5. Luc 1, 37.
La parole de Dieu nous dit ceci. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen.
Amen. C'est bon. Les derniers à trouver. Et on va chaque fois vérifier si la personne est en train de trouver pour ne pas lire les versets de moi. Voilà, le dernier à trouver, 5 secondes. Matthieu 6, 33. 1, 2, 3, 4. C'était lui, hein? Ah, c'est lui qui a signalé en premier, hein? Matthieu 6, 33.
Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, parole du Seigneur.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les frères et la sœur, bien sûr? Comme je vous ai dit, on est à la fin du jeu. C'est un challenge que je nous donne. Nous sommes des jeunes, mais nous devons nous approprier cette parole de Dieu. Chers amis, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, le monde dans lequel nous vivons, c'est très compliqué. Commencez dès maintenant à lire la parole de Dieu. Méditez jour et nuit la parole de Dieu. Si vous voulez grandir dans la foi, les amis, si la Bible est loin de vous, vous allez vous engloutir dans ce monde. C'était un challenge pour nous rappeler encore à nous approcher de la parole de Dieu. Alors, on va récompenser nos bien-aimés de ce soir. Et heureusement, c'est Dieu, même celui qui n'a pas donné la bonne réponse, il a droit à un cadeau. Voilà votre cadeau. Et que Dieu vous bénisse. Ça va. Merci beaucoup pour vos efforts et ce que vous continuez à faire. Merci. Merci beaucoup. Sinon, on sera en train de les encourager. Et à ce moment, je vais devoir appeler l'orateur du jour, Papa Abel, d'approcher sous vos applaudissements.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous sommes devant toi à ces instants puisque c'est auprès de toi que nous avons la vie, c'est auprès de toi que nous recevons les paroles de la vie. Pierre disait, à qui d'autre irions-nous si ce n'est vers toi, car tu as les paroles de la vie. Seigneur, que ta parole nous communique la vie en ces instants. Que ceux qui étaient morts et ceux que l'ennemi a voulu tuer en nous, Seigneur, soient ravivés dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il m'accorde d'être au milieu de vous aujourd'hui. C'est un honneur et une grande responsabilité pour moi. Et je prie que le Seigneur nous fasse tous grâce et que nous puissions sortir de ces instants avec quelque chose qui vient d'en haut. Alléluia. Aujourd'hui, nous commençons une série qui est intitulée « Save the Date ». Ce n'est pas dans la Bible, mais tout ce que nous allons dire se trouve dans la Bible. Alléluia. C'est une série qui porte sur le processus qui nous conduit au mariage. Qui aime le mariage? Qui aime le mariage? Il y en a qui n'aiment pas. Qui préfère le célibat? Que le Seigneur vous bénisse. Jésus que nous adorons est célibataire. Alléluia. Mais il ne le restera pas parce qu'il a une épouse. Alléluia. Alors, nous allons lire la parole de Dieu et je prie que le Seigneur nous bénisse tous. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ruth. Ruth, je vais lire le chapitre 1. Je me demandais si je devais tout lire, mais j'estime que c'est important que je lise tous parce que pour certaines personnes, c'est peut-être la première fois qu'ils ouvrent la Bible cette semaine. Alléluia. Alors, nous allons lire Ruth chapitre 1. Je lis au nom du Seigneur. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec. Celui de sa femme, Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant, décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène, comment ? Les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée ? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Parole du Seigneur. Alléluia. La parole que nous venons de lire est une histoire que certains d'entre nous connaissent peut-être. C'est une histoire très fascinante, riche en enseignements. Et ma prière, c'est que ces instants, que le Seigneur puisse enrichir chacun de nous avec la pensée qu'il a pour chacune de nos vies. C'est vrai, nous allons parler du processus qui conduit au mariage, mais vous allez tous découvrir, comme je l'ai découvert, que Dieu, le Seigneur que nous adorons, s'intéresse à chacun des aspects de notre vie, y compris le processus qui nous conduit vers le mariage. Et même si vous n'aimez pas le mariage, je suis sûr que vous allez trouver une parole pour vous. Le processus qui conduit au mariage a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles où vous pouvez vous apprendre à vous marier. Il y a l'école du cinéma. Si vous suivez beaucoup les films romantiques, les films d'amour, et tout autre film, vous allez rencontrer quelque part une histoire d'amour. Et vous pouvez apprendre à cette école-là. Il y a l'école des amis. Vous pouvez regarder comment vos amis se sont mariés. Et vous pouvez apprendre à cette école-là. Il y a l'école de la tradition. Elle a aussi beaucoup de choses à offrir, cette école. Et si vous voulez apprendre, consultez ceux qui sont venus avant vous, les grands-pères, les arrière-grands-pères, ils vont vous enseigner beaucoup de choses sur le processus qui conduit au mariage. Il y a beaucoup d'écoles. Ce dont nous voulons parler dans cette série, c'est l'école du Seigneur. Je ne me tiens pas ici pour prêcher la tradition. Je ne me tiens pas ici pour prêcher le cinéma. Je ne me tiens pas ici pour prêcher autre chose que la parole du Seigneur. Alléluia. Je ne me tiens même pas ici pour prêcher la tradition juive. Je me tiens ici pour prêcher l'école du Seigneur. Donc, d'emblée, vous avez le choix, bien-aimé. Vous avez le choix. Le choix de l'école à laquelle vous allez vous inscrire. Mais, faites attention. Vous ne pouvez pas vous inscrire à l'UNIGOM et être diplômé à l'ULPGL. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous inscrire à l'école A et obtenir le diplôme de l'école B. Si vous décidez de vous inscrire à l'école du cinéma, ne vous attendez pas au résultat de l'école du Seigneur. Alléluia. Oui, il faut que ça soit clair dès le début. Alors, choisissons et choisissez donc l'école. Je sais qu'il y a, tout le monde se marie, beaucoup de gens se marient. Mais tous les mariages ne se ressemblent pas. Mais tous les mariages qui sont conduits, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, dans leur processus de mariage, observe généralement, le Seigneur les conduit sur le même chemin. Le même chemin. Alors cela veut dire que si vous voulez bénéficier pleinement de cet enseignement, vous devez faire le choix. Vous devez faire le choix de ne pas vous appuyer sur votre intelligence. Vous devez faire le choix de ne pas vous appuyer sur la sagesse du monde. Vous devez faire le choix de vous appuyer sur la sagesse du Seigneur qui est contenue dans sa parole. Parce qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 14, verset 25, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue mène à la mort. » Cela veut dire que mon intelligence ne suffit pas. Parce que même si j'ai déjà été marié avant, comme c'est le cas de Ruth, chaque nouveau processus dans lequel vous engagez, c'est un chemin par lequel vous n'êtes pas passé. Alléluia. C'est un chemin par lequel vous n'êtes pas passé. Et l'homme ou la femme sage, c'est celui qui sait se faire accompagner par ou qui sait se faire conduire par le bon berger. Dieu s'intéresse, bien-aimé, au cheminement, à votre cheminement vers le mariage. Il s'y intéresse et contrairement à ce que parfois même les chrétiens disent, j'ai entendu un jour un prédicateur dire que depuis que Adam avait accusé Dieu dans le jardin d'Éden, Dieu ne donne plus les épouses. Il a laissé à l'homme la liberté de se choisir lui-même parce que Dieu ne veut plus de problèmes avec les hommes. Parce que quand Dieu est venu poser la question à Adam, « Est-ce que tu as mangé du fruit ?» Adam répondra, « C'est la femme que tu m'as donné. » Autrement dit, c'est à cause de toi. Si tu ne m'avais pas donné cette femme, je n'allais pas manger de ce fruit. Alors, il tirait la conclusion selon laquelle, depuis ce jour-là, Dieu s'est dit, « Ah, ah, vos affaires-là de mariage, débrouillez-vous. » Le problème, c'est que ce passage n'est nulle part dans les Écritures. Au contraire, ce que les Écritures nous disent, Psaume chapitre 32, nous pouvons lire ça ensemble. Psaume chapitre 32, lisons à partir du verset 8. La Bible dit ceci, « Je ferai quoi ?» C'est le Seigneur qui parle. Il dit, « Je t'instruirai, je te montrerai, la voie que tu dois suivre, je te conseillerai. » Alléluia. je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et le verset 10 dit ceci, beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Le méchant, c'est celui qui rejette le conseil de Dieu. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est quoi? Environné de sa grâce. Alléluia. Dieu lui-même dit, et ça c'est après le jardin d'Éden, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole aujourd'hui? Alléluia. Ça, c'est ce que le Seigneur a promis. Ruth, dans l'histoire, dont nous venons de lire l'histoire, Ruth, je vais donner un petit contexte. Qui est Ruth? Ruth est une Moabite. Elle est ressortissante d'un pays qu'on appelle Moab. Moab, ou les Moabites, sont les descendants de Lot. Et nous connaissons Lot, n'est-ce pas? Lot, le neveu d'Abraham. Seulement les Moabites sont les descendants d'une relation incestueuse. Lot avait commis l'inceste avec sa fille. Et l'enfant qui est né de cet inceste-là est l'ancêtre des Moabites. Et Ruth fait partie de ce peuple-là. Ce peuple-là, bien que voisin avec Judas, bien que voisin avec les Juifs, ils ne s'entendaient pas. Ils étaient voisins, mais séparés par un lac, les voisins. Mais ils ne s'entendaient pas. Les Moabites et les Juifs ne s'entendaient pas. Donc, c'était deux peuples qui étaient en conflit. Alors, c'est ça, Ruth. Ruth appartient donc à ce peuple-là. Un peuple qui est issu d'une relation incestueuse. Mais Ruth finit par se marier avec un homme qui est membre de ce peuple du Seigneur, le peuple juif. Le problème, c'est que lorsque Ruth se marie avec cet homme, 10 ans après, cet homme meurt, son frère, qui avait aussi épousé une autre Moabite, meurt. Et bien avant la mort de son mari, son beau-père est aussi mort. Donc Ruth se retrouve dans une famille où le beau-père meurt, le mari meurt, le beau-frère meurt. Aujourd'hui, on dirait qu'il y avait un esprit de mort dans cette famille. N'est-ce pas? Oui. Et donc, son mari meurt, et donc son mariage est terminé. Mais Ruth est encore une belle femme. Elle est mariable. Elle a de l'avenir. Et d'ailleurs, sa belle-mère le lui dit. Il lui dit non, retourne. Lorsque sa belle-mère est arrivée, Naomi, elle est arrivée à Moab comme réfugiée avec son mari. Ils ont fui la famine à Bethléem et ils arrivent à Moab à la recherche d'une meilleure vie, une meilleure situation économique. Mais seulement, lorsque tous ces hommes meurent, ça veut dire que cette famille ne peut plus décoller économiquement. Ce n'est pas seulement une catastrophe du point de vue émotionnel, psychologique, mais c'est aussi une catastrophe du point de vue économique. D'ailleurs, Ruth, Naomi le dira. Elle dit que
Je suis parti d'ici, de Bethléem, prospère, mais je rentre les mains vides. Voilà. Donc, Ruth se retrouve avec une belle-mère qui était venue prospère. Et elle s'est mariée, mais à la fin de l'histoire, non seulement il y a la mort, mais la même crise que cette famille avait fui les suit à Moab. On dirait une famille poursuivie. N'est-ce pas? Alors, comment se comporte Ruth lorsque sa belle-mère lui dit: cette affaire est terminée entre nous, moi et vous. Rentrez chez vos parents. Allez recommencer votre vie. Vous allez certainement trouver des maris. Et vous allez reprendre votre vie. Moi, je n'ai plus rien à vous donner. Et c'est vrai. Comment se comporter lorsqu'après une telle épreuve, on en sort quand même vivant, avec de bonnes relations avec sa belle-mère, mais on est encore mariable. On a encore de l'avenir. Et on est au milieu de son peuple. On a ses parents vivants. On a encore des chances. Contrairement à Naomi, elle, pour elle, c'était terminé. Mais Ruth décide de rester accrochée à cette femme. Et c'est ça qui est intriguant dans cette histoire. Pourquoi Ruth s'accroche tant à une femme? Pourquoi une jeune fille, une jeune femme qui a encore de l'avenir, qui est mariable, qui a ses parents vivants, qui a encore de belles perspectives pour sa vie, pourquoi elle s'accroche à cette vieille dame qui elle-même dit « Je n'ai plus rien à t'offrir », qui est ruinée économiquement, qui est veuve, qui n'a plus rien. Mais Ruth dit, je ne t'abandonnerai jamais. Là où tu vas, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, alléluia. Ruth doit avoir vu en Naomi quelque chose. Quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux de la chair. Elle doit avoir vu en Naomi quelque chose qu'on ne voit pas avec le regard du monde. Parce que lorsque le monde regarde Naomi, quand Naomi arrive à Bethléem, lorsque le monde la regarde, le monde dit « Hey yo !» Mais lorsque Ruth regarde Naomi, Ruth semble voir l'espérance en Naomi. Est-ce que cela n'est pas intriguant? Et plus tard, nous allons le voir, plus tard, Ruth, et je peux même le dire maintenant, Ruth, finalement, plus tard, grâce à cette connexion avec Naomi, Ruth finira par rencontrer un homme qui l'épousera. Mais ce n'est pas que ça. Ruth finira par devenir l'ancêtre du Messie. Alléluia. L'ancêtre du Messie. Il y a trois choses que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui à propos de ce chapitre 1. La première chose que j'aimerais partager avec vous, si vous êtes là, vous aspirez au mariage. Et même si vous n'aspirez pas au mariage, si vous aspirez à quelque chose que vous attendez du Seigneur, si vous aspirez au mariage ou à autre chose, la première chose que j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, tu as besoin d'une connexion. Alléluia. Tu as besoin
d'une connexion. Pour obtenir ce que le Seigneur a en réserve pour toi. Tu as besoin d'une connexion, mais cette connexion, tu as besoin d'une connexion avec une personne ou avec les personnes que le Seigneur a placées sur ton chemin ou sur le chemin de la destinée qu'il a préparée pour toi. Regardez le parcours de tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, sans exception. Tous. Le Seigneur place toujours sur le chemin de ceux qu'il conduit des hommes, des femmes avec lesquels vous devez vous connecter pour entrer dans la destinée que le Seigneur a tracée pour vous. Pour le cas de Ruth, c'était Naomi. Sans s'attacher à Naomi, vous voyez, Orpa est restée belle-fille de Naomi et son histoire s'est terminée quand elle s'est séparée de Naomi. Vous avez encore entendu parler d'Orpa? Oui? Terminée, on ne parle plus d'elle. Lorsqu'elle s'est détachée de Naomi, son histoire aussi s'est terminée. Mais nous parlons encore de Ruth aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle a seulement pris la décision de rester connectée à la personne que Dieu avait placée sur le chemin de sa destinée. Tu as besoin de te connecter à celui que Dieu a placé sur le chemin de la destinée qu'il a tracée pour toi. Alléluia. Ta bénédiction n'est pas dans l'isolation. Non. Ta bénédiction n'est pas dans l'isolation. La provision que Dieu a pour toi n'est pas dans l'isolation. Tu as besoin de cette connexion. Cette connexion, c'est aussi ce que nous appelons communion. Alléluia. Faites attention avec qui vous êtes en contact. Il y a des connexions qui vont vous faire perdre du temps. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Parce que vous êtes tellement attaché à cette personne dont l'intelligence n'est pas renouvelée. Ah, c'est mon ami. C'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Qu'est-ce qu'il y a dans cette amitié? Qu'est-ce que vous partagez en commun? Ah, le football. C'est seulement le football que vous avez en commun. Rien d'autre. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Les personnes avec qui vous êtes connectés, il faut revisiter vos relations. Il faut les évaluer. Qu'est-ce qui fait que je sois ami à cet ami? Qu'est-ce qui m'attache à cette personne? Est-ce que vous savez ce qui vous attache à la personne avec qui vous êtes assise? C'est quoi? Voilà. Vous avez besoin de la bonne connexion. Je bénis le Seigneur pour ce que Naomi a été pour Ruth. Mais lorsque vous écoutez Naomi parler, Naomi est aussi quelqu'un de très reconnaissante pour ce que Ruth a été pour elle. Alléluia. Lorsque vous regardez la relation qu'il y a entre Naomi et Ruth, c'est clair que cette relation-là n'est pas basée sur l'argent. N'est-ce pas? Cette relation n'est pas basée sur l'argent. Cette relation n'est pas basée sur un intérêt immédiat. Parce que lorsque tout est parti dans la vie de Naomi, lorsque Naomi entre dans un état où tout le monde a pitié d'elle, c'est en ce moment-là que Ruth manifeste son attachement de la manière la plus forte. une Moabite qui s'attache à une juive. Et lorsque Ruth parle, elle dit, je ne vais pas te laisser, j'irai avec toi. Et elle dit, là où tu iras, j'irai. Et elle dit une chose très importante, elle dit, ton peuple sera mon peuple. Alléluia. L'acte que Ruth pose est un acte de foi. C'est un acte de foi. Un acte de foi. Et c'est cet acte de foi qui fait que Ruth entre dans sa destinée. La deuxième chose que j'aimerais dire, la première chose que j'ai dite, c'est que vous avez besoin de la connexion avec les personnes que Dieu a placées sur le chemin de la destinée qu'il a tracée pour vous. Et cette personne-là, ou ces connexions-là, ou ces personnes-là, sont nécessairement des personnes dont l'intelligence est renouvelée. C'est forcément quelqu'un ou des personnes qui ont en eux ou en elles la semence de Dieu. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que Ruth reste attachée à Naomi. Et à la fin, nous voyons Ruth entrer dans l'héritage ou dans la provision que le Seigneur avait pour elle. Elle finit par trouver le mari que Orpa est allé chercher auprès de son peuple. Ruth trouve un mari sans chercher un mari. Alléluia! Elle trouve un mari alors que sa décision de suivre Naomi, ce n'était pas motivé par la recherche d'un mari. Parce qu'en tout cas, si tu cherches un mari, ce n'est pas auprès d'une veuve ruinée dont les deux fils sont morts que tu vas avoir la garantie d'avoir un mari. N'est-ce pas? Elle est attachée à quelque chose de plus qu'un mari. Et c'est en ce moment-là, et c'est sur cette voie-là, qu'elle finit par trouver ce que Orpa est allé chercher en quittant Naomi. Et ce que j'aimerais dire à propos de cela, c'est que la provision ou le mari ou la femme ou toute autre bénédiction que tu attends du Seigneur a une adresse. La provision que le Seigneur ou la bénédiction du Seigneur pour toi a une adresse. C'est vrai, Dieu est omniprésent. Mais sa provision n'est pas omniprésente. Dieu est omniprésent, mais sa provision pour toi, elle n'est pas omniprésente. Lorsque Dieu a appelé Abraham et que Abraham a appelé Dieu, lorsque Dieu a appelé Abraham et lui a demandé de lui offrir son fils à la montagne de Morija, nous savons tous comment Abraham a appelé le Seigneur après cette expérience. Abraham a appelé le Seigneur Jéhovah Jireh. Alléluia. Même si nous aimons appeler le Seigneur Jéhovah Jireh, mais nous devons savoir que Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh à la montagne. Alléluia. Et la Bible dit Jéhovah Jireh. Lorsque Abraham appelle Dieu Jéhovah Jireh, la Bible dit, c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, on dit à la montagne, il sera pourvu. Donc normalement, lorsque nous disons Jéhovah Jireh, ce que nous devrions dire, c'est le Dieu qui pourvoit à la montagne. Alléluia. Parce que cette provision-là que Abraham avait reçue, après avoir offert son fils, la provision qu'il va recevoir par la suite, c'est une provision qu'il n'avait pas reçue au bas de la montagne ou chez lui à la maison. Il devait faire le voyage de 3 jours et arriver au sommet de la montagne. Et c'est là, non seulement qu'il a trouvé la provision pour le sacrifice, et c'est là que Dieu, après avoir promis de bénir Abraham, c'est là que Dieu va jurer par lui-même, certainement, je le jure, que je te bénirai. Alors que tout ce que Dieu dit, il accomplit. Mais Dieu, après avoir vu l'obéissance d'Abraham, Dieu lui-même, il se dit, vraiment, j'allais parler comme un homme. Vraiment, je dois bénir cet homme. Alléluia. La provision de Dieu se trouve à sa montagne. Et lorsque nous parlons de montagne ici, c'est quoi? La montagne, c'est là où tu te trouves après avoir obéi. Alléluia. La position que tu occupes, la situation dans laquelle tu te trouves après avoir obéi, c'est ça la montagne. Et c'est là que se trouve la provision de Dieu pour toi. La position dans laquelle tu te trouves après avoir décidé d'obéir à la voix du Saint-Esprit qui te dit « Garde-toi pur. » Là où tu te trouves là, comme un frère me disait « Ah, papa Abel, c'est dur. C'est dur. Je dois me marier. Vraiment, je suis fatigué. Les tentations, c'est devenu insupportable. » Oui, il sent que c'est dur, l'épreuve est devenue dure. Là où tu te trouves, après avoir obéi, c'est là que se trouve la provision de Dieu pour toi. Alléluia. Elle n'est pas omniprésente. Je ne suis pas en train de dire ici que si tu désobéis au Seigneur, tu ne vas pas te marier. Non. Tu peux te marier. Tu peux te marier, même en désobéissant. Mais seulement, tu n'auras pas les résultats, les mêmes résultats que ceux qui ont décidé d'apprendre à l'école du Seigneur. Alléluia. Orpa, est-ce que Orpa ne s'est pas mariée? Probablement, elle s'est mariée. Probablement. Mais Orpa n'a pas eu le même héritage que Ruth. Alléluia. Dieu ne veut pas juste te donner un mariage. Tu peux être en train d'aspirer à un mariage. Mais lorsque tu te marieras, toi-même tu seras surpris. Mais ah, c'est seulement ça que j'ai cherché. Parce que lorsqu'on désire tellement une chose, on se fait des idées sur cette chose. Et finalement, lorsqu'on l'obtient, on se dit, mais ah, mon aïkwata grave. C'est ce que j'avais ressenti lorsque j'ai eu mon diplôme. Je pensais que lorsque je serai docteur, ça serait... Peut-être je vais commencer à me réveiller en plein milieu de la nuit. Je me dis, waouh. Mais non, je dors toujours. Rien de spécial, n'est-ce pas? Oui, mais tu peux désirer tellement, tellement le mariage, mais ce que le Seigneur a en réserve pour toi, c'est quelque chose de plus que le mariage. Alléluia. Parce que beaucoup se sont mariés, mais depuis qu'ils se sont mariés, ils ont perdu le repos. Alléluia. Beaucoup se sont mariés, depuis qu'ils se sont mariés, ils regrettent la liberté qu'ils avaient dans le célibat. Ils regrettent. Vraiment. Vraiment. Parce qu'ils ont idéalisé tellement la chose. Ils étaient prêts à suivre et aller prendre même ce que l'ennemi propose. La provision que le Seigneur a pour toi a une adresse. Et cette adresse,
c'est à la montagne. Obéissons, marchons dans l'obéissance au Seigneur. Et nous allons hériter des promesses. Alléluia. Nous allons hériter de plus que nous désirons. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une clé. Une fois que tu arrives à cette montagne, il y a une clé pour accéder à cette bénédiction. Et cette clé, je la résume en deux mots. Je vais donner la première aujourd'hui. La deuxième, je vais la donner prochainement. La clé, c'est la foi. La foi. L'histoire de Ruth, c'est une histoire d'une femme de foi. Une femme qui a su voir au-delà de ce que les yeux de la chair peuvent voir. Une femme qui a su voir dans son ex-belle-mère. Ce n'est même pas sa belle-mère, son ex-belle-mère. Elle a su voir dans son ex-belle-mère, une ex-belle-mère dépouillée, une ex-belle-mère vieille, une ex-belle-mère qui n'a plus rien à offrir. Elle a pu voir en elle le divin. Au point qu'elle a pris la décision de dire, c'est vrai, je suis moabite de naissance, mais désormais, le peuple de cette femme sera mon peuple. Alléluia. C'est cette foi qui te fait changer d'identité. Ce n'est pas la foi que tu confesses. La confession n'est pas mauvaise. Mais ce n'est pas de cette foi-là que je parle. Je parle de la foi qui te fait changer d'identité. C'est-à-dire, avant, tu appartenais à un groupe. Mais depuis que tu as cru en ce Dieu, depuis que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as changé de groupe. Alléluia. C'est de cette foi que je parle. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de chrétiens. Ils deviennent chrétiens, mais ils restent dans le groupe des non-chrétiens. Mais ils continuent à confesser, je crois en Dieu. Non, ce n'est pas de cette foi-là dont nous parlons. Nous parlons de la foi qui te fait quitter Moab. Tu ne t'identifies plus au peuple moabite. Tu as une nouvelle identité. Tu entres dans la famille de Dieu. Tu as de nouveaux amis. Tu as de nouvelles fréquentations. Tu as un nouvel agenda. Tu as une nouvelle manière de t'habiller. Tu as une nouvelle manière de parler. Ton identité a changé. C'est de cette foi-là que nous parlons. Et c'est cette foi qui te fera entrer ou qui va te placer sur le chemin de la destinée que Dieu a tracée pour toi. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin de chercher le mariage pour te marier. Tu as seulement besoin de te mettre sur le chemin de la destinée que Dieu a tracée pour toi. Alléluia. C'est de cette foi-là que nous parlons. C'est une foi qui est profonde. Elle n'est pas superficielle. Elle te donne une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Et c'est une foi qui n'est pas seulement en parole. C'est une foi qui te pousse à poser des actes, à entrer en mouvement. Ruth n'a pas seulement cru au Dieu de Naomi, mais lorsqu'est arrivé le moment de rentrer à Bethléem, Ruth s'est levée. C'est vrai, elle a pressé Naomi, mais elle s'est dit non, je ne reste pas ici. Je me lève et je commence le voyage avec cette femme. Il s'agit d'une foi qui agit, une foi qui te pousse à prendre des décisions et à agir conformément à ces décisions. C'est une foi qui te pousse, après avoir écouté une parole comme celle-ci, en sortant d'ici, tu te dis, je dois prendre une action. Je dois renoncer à mon peuple,
à mes amis. Je dois renoncer à ma vieille manière de vivre. Je dois poser un acte. Je dois me débarrasser de tout ce qui dans ma chambre, tout ce qui dans ma maison m'empêche ou me rappelle ma vieille identité. Je dois nettoyer ma garde-robe. Je dois changer ma façon de parler. C'est cette foi-là, c'est de cette foi qu'il s'agit. Une foi qui est enracinée, enracinée jusqu'au tréfonds de mon identité. Alléluia. Sans cette foi, bien-aimé, you will save the date. But that date will be a nightmare for you. Sans cette foi-là, tu vas réserver cette date, tu vas save the date, mais cette date-là, ça sera le début des problèmes dans ta vie. Au lieu que ce soit le début de la célébration. Sans cette foi, vous savez, beaucoup de ceux qui ont négligé cette foi, depuis qu'ils se sont mariés, ils sont devenus des intercesseurs. Alléluia. Tu entres dans ta bénédiction, au lieu de jouir de ta bénédiction, tu commences à te lamenter devant le Seigneur. Ô Seigneur, change-le. Change-le, Seigneur. Change-le. Vite, vite. Je ne pourrais pas supporter. J'entends des gens qui font 10 ans, 13 ans avec moi. Est-ce que je ferai 10 ans avec quelqu'un comme ça? Voilà. Sans cette foi, bien-aimé, et cette foi suppose que tu laisses au Seigneur s'occuper de ton mariage. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout? Je ne sais pas si à quelle école tu es en train d'apprendre à propos du mariage. Je ne sais pas à quelle école tu es en train d'apprendre. Peut-être qu'aujourd'hui tu veux dire, Seigneur, j'aimerais entrer dans ton école. Je ne sais pas si tu as déjà fait le choix ou si tu as déjà pris la décision de croire en Jésus-Christ. Je ne parle pas de confesser Jésus-Christ. Je parle de croire Jésus-Christ. De croire Jésus-Christ suffisamment pour renoncer à toi-même et accepter à te laisser conduire par lui. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux et commencer à parler au Seigneur et dire au Seigneur, Père, je veux de cette foi. Je veux de cette foi qui voit au-delà de ce que le monde voit. Aujourd'hui, je veux me laisser entre tes mains pour que tu conduises le processus de mon mariage. Même si tu ne penses pas encore au mariage, bien-aimé, il n'est jamais trop tôt pour prier pour sa destinée. Tu peux commencer aujourd'hui et dire, Seigneur, prends-moi en charge. Prends en charge ce processus. Pour que lorsque le moment viendra pour moi d'opérer un choix, Seigneur, que ce moment me trouve sur le chemin qui mène vers Bethléem, la maison du pain, la maison de ta provision. Est-ce que tu peux élever ta voix? Si tu reconnais dans ton cœur que tu n'as jamais fait ce pas vers le Seigneur, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu n'as jamais dit, Seigneur, aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur et je renonce à moi-même et au monde. Si c'est ça, si tu es dans cette situation en particulier, est-ce que tu peux lever ta main? Nous voulons prier avec toi et pour toi. Parce que le Seigneur est ici et le Seigneur est intéressé par ta destinée. Si c'est ton cas, lève la main. J'aimerais prier avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que tu es un Dieu fidèle, tu es le bon berger et tu es celui qui nous conduit vers de verts pâturages. Tu nous diriges vers des eaux paisibles et tu connais le processus dans lequel nous sommes engagés. Pour certains, c'est le mariage. Pour certains, c'est quelque chose au-delà du mariage. Pour certains, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le mariage. Mais nous savons, Seigneur, que dans nos cœurs, il y a une date à laquelle nous espérons l'accomplissement de ta promesse. Père, je prie pour chacun d'entre nous dans cette salle et pour ceux qui nous suivent en ligne. Père, je prie que personne ne se prive de la grâce que tu as en réserve pour nous. Et nous savons, Seigneur, que cette grâce se situe sur le chemin de l'obéissance. Garde-nous sur ce chemin. Implique-nous sur ce chemin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.